la couleur des idées. Pascal Seyss.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans La Couleur des Idées. La nuit porte conseil, dit-on, et pour que le conseil avisé voie le jour à son tour, il faut faire tomber la nuit, juste histoire d'y voir clair. Faire tomber la nuit pour donner le temps de penser à ce que nous faisons et à qui nous sommes, c'est une magie que permet le théâtre et la femme qui tire les ficelles de la nuit pour nous donner à penser notre temps est metteuse en scène et elle est notre invitée dans La Couleur des Idées ce matin. Bonjour Françoise Bloch.
Bonjour.
Point de rupture est le titre de votre nouvelle création à découvrir en ce moment sur la scène du Théâtre National et puis plus tard en tournée, notamment à Montpellier. Quatre acteurs, un univers oppressant de costumes, cravates et de tailleurs et talons hauts, des entretiens d'embauche, une novlangue managériale, des objets que l'on achète et que l'on vend avec légèreté et désespoir. Et la musique de Jean-Sébastien Bach. Alors première question, Françoise Bloch, comment va le monde?
Hola, le monde va très très mal. Je pensais déjà qu'il allait mal, ça fait un certain temps. C'est même à l'origine de mon désir de ce spectacle-là. Mais là, aujourd'hui, avec le confinement, le post-confinement, les atteintes à nos libertés, la nécessité que je ressens de travailler quotidiennement à ne pas intégrer comme normal une situation qui est profondément anormale. Je ne sais que dire sur ce qui va mal. Enfin, ce qui va mal, on le sait. On sait que on est dans une impasse climatique. On connaît le presque le calendrier du réchauffement. On sait qu'on est dans une impasse financière, qu'on risque à tout moment une prochaine crise qui sera probablement plus violente que la précédente. On sait que les inégalités sociales se creusent chaque jour un peu plus. On sait qu'on réunit toutes les conditions pour que le fascisme s'installe à grande échelle. Et il s'installe à grande échelle. Et pourtant, profondément, rien ne change. Ça, c'est à l'origine de mon spectacle. Et donc, derrière ce constat-là, qui date d'avant le confinement, date d'avant la crise coronavirus, comment l'appeler, derrière ça est venue cette période de mars à aujourd'hui, qui continue à courir, où les conséquences du tout à la marchandise, du tout au profit, atteignent nos vies au plus profond. Voilà.
Le monde marche sur sa tête, Françoise Bloch, et nous sommes arrivés à un point de rupture. C'est ce que raconte votre spectacle Point de rupture. Et pourtant, il y a Jean-Sébastien Bach.
Bah oui, il y a cette capacité à continuer à avancer, à essayer de structurer le temps et l'espace malgré tout. Et j'aime les structures de Bach et ça me porte et ça porte aussi les acteurs qui jouent dans le spectacle.
Oui, on va en parler de ces acteurs magnifiques. Votre spectacle, Françoise Bloch, commence par une image dessinée, un dessin sur le sol. Un cercle est défini comme une mare et puis l'une des comédiennes vient y déposer un pavé. Le mot se transforme en mare avec deux R. Alors, ce « on en a marre », est-ce un point de départ, un point d'arrivée?
C'est un point de départ. C'est un point de départ, j'espère, parce que si c'est un point d'arrivée, on va vraiment pas faire long feu. Non, c'est un point de départ, et c'est un point de départ qui est à choix multiples. Et on doit travailler à ce que ce marre débouche sur des constructions et des possibles qui ne soient pas la droite ligne vers la dictature et vers le... et tout le reste. Enfin.
Alors une question est posée en amont, enfin d'emblée dans votre spectacle, c'est un pile ou face?
Oui. Oui, ben ça c'est plutôt une blague, je dirais. Le pile ou face porte sur est-ce qu'on obéit ou est-ce qu'on n'obéit pas. Et bon, et j'aime bien qu'on puisse se dire, allez, c'est un pile ou face de, je me dis donc maintenant je désobéis, je décide de cette posture-là, je cesse avec l'obéissance et je pile ou face, j'obéis pas, allez, j'obéis pas, j'y vais.
Sauf que dans le spectacle, vos comédiens sont largement obéissants dans la première partie.
Ah oui, puisque nous tirons le fil du oui à tout, nous tirons le fil de dire oui à tout dans les pires situations d'oppression, enfin les pires. Dans des situations, je décris surtout le monde du travail et les organisations du travail, donc accepter l'humiliation, la pression, etc. Et oui, jusqu'à quand? Et donc je mets en scène un oui insupportablement permanent, je dirais. Enfin, un oui qui semble ne devoir jamais s'arrêter.
Oui, la phrase qui revient, c'est « et on continue ».
Et on continue, oui.
Jusqu'au point de rupture.
Jusqu'au point de rupture. Jusqu'à ce que quelqu'un pose la question « est-ce que ça va encore continuer longtemps ?» Comme ça, tout ça, voilà.
Alors, point de rupture, c'est le titre de ce spectacle. Et vous indiquez à un moment qu'en 1960, il aurait porté un autre titre, projet. Dans les années 70, 80, 90 aussi, est-il inscrit d'emblée en ouverture. Alors, qu'avez-vous voulu montrer de ces changements sur les mots en un demi-siècle?
J'ai voulu montrer le chemin de la protestation qui se défait. Enfin, en 1960, ce spectacle se serait appelé « Ceci est votre bulletin de vote » et l'image, c'est un pavé, c'est une image célèbre de 68. En 1970, on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Et puis après, 80, 90, 80 avec la gauche qui commence à ne plus être à gauche, 90 où on voit le néolibéralisme se prendre la place partout. Puis après, on arrive à 2010 ou post-crise de 2008 où il faut bien qu'il y ait des gens qui payent le prix. Et puis 2020, voilà, point de rupture, j'espère.
C'est une question aussi qui est ouverte sur ce qui vient après
ce qui vient, il y a trois petits points. Je ne sais pas ce qui vient. Personne ne sait ce qui vient. On peut qu'espérer que quelque chose profondément se transforme.
Alors vous avez choisi la voie du théâtre pour dire le monde, pour lire le monde. Alors, vous avez travaillé avec des acteurs. De quelle façon, pour structurer, vous parlez de la structure de Jean-Sébastien Bach, une pièce comme celle-là, 1h40, c'est aussi une architecture. Comment vous avez travaillé?
J'ai travaillé presque comme d'habitude, c'est-à-dire que je pose une question qui est celle ici du changement et de la transformation, et je rassemble de la matière et on étudie ensemble une question, et puis les acteurs apportent de la matière, donc on se trouve avec des matières qui tournent autour d'une question. La différence ici, c'est que j'ai fait par le passé du théâtre beaucoup basé sur le document, le film documentaire, interview, etc. Et ici, parmi les matériaux qui nous aidaient à étudier, il y avait des œuvres artistiques, des fictions. Et donc, voilà, je rassemble de la matière, les acteurs s'en emparent et produisent soit de l'écriture, soit directement du théâtre. Et à travers ce qui fait théâtre, on construit une dramaturgie. Ensemble.
Alors on va les citer, ces co-auteurs, puisqu'ils écrivent avec vous, c'est Elena Doraciotou et Jules Puybarot, qu'on avait pu découvrir dans Les Caravelles et des Batailles la saison dernière, et puis Léa Romani et aussi Aymeric Triunfo. Vous les avez réunis parce que vous avez été leur professeur à Liège?
En fait, seulement de Elena Doraciotou, les hasards des programmations ont fait que je n'ai pas rencontré Jules Puybarot et Léa Romani dans le travail, mais qui sont de Liège, je les ai vus travailler. Aymeric Triunfo, lui, est un acteur qui a fait ses études à l'INSAS, que j'ai découvert autrement, disons. «
la dynamique de la musique de Jean-Sébastien Bach, de la dynamite aussi, Françoise Bloch, puisque cette musique fait tourner les tables dans votre spectacle. Le monde semble sur roulette avec vous.
Oui, ça fait des années que je mets tous mes décors sur roulette. Bon, parce que au départ, et ça continue à être le cas, je trouvais que ça racontait assez bien l'espèce de les faux changements, c'est-à-dire que les espaces bougent très rapidement, la fluidité, etc. Mais en fait, finalement, c'est au bout du compte, c'est quand même toujours le même décor avec des tables de bureau à roulettes, des chaises à roulettes qui ont l'air de bouger, de changer et qui, au fond, oui, reconstruisent toujours un peu la même chose. Donc, encore une fois, j'utilise les roulettes, je pense, pour la dernière fois. Je l'indique en tout cas dans le spectacle que je pense que c'est la dernière fois que je mets un décor sur roulettes. Mais voilà, et cette question-là du dynamisme, du faux dynamisme de l'entreprise et du dynamisme un peu fake de la mise en scène est questionnée aussi dans le spectacle.
Françoise Bloch, votre spectacle Moni avait remporté le prix de la critique du meilleur spectacle en 2014. Puis vous aviez monté Grow or Go, qui traite de la consultance en entreprise. Une société de service explorait les coulisses de centres d'appel. Et puis dans Point de rupture, on retrouve vos réflexions sur les mécanismes sous-jacents. Vous aimez bien tout ce qui est enfoui et souterrain qui motive le capitalisme libéral. Dans ce spectacle, la question centrale porte sur l'obéissance et l'insurrection. Est-ce que précisément le théâtre, ou le domaine de l'art en général, est un lieu où cette insurrection est possible? Est-ce qu'il est toujours possible de se rebeller au théâtre?
Je ne suis pas tout à fait sûre de comprendre toute la question. Se rebeller contre les formes convenues est possible. Se rebeller, mais c'est pas l'insurrection sociétale. Le théâtre ne va pas provoquer une insurrection sociétale à lui tout seul. Enfin, mais il est possible de mettre tout en œuvre pour échapper au formatage. Il n'est pas évident d'y arriver, et plus les produits artistiques, même aussi artisanaux que le théâtre, sont amenés à devenir des marchandises, plus on s'approche de la marchandise, plus il est difficile, enfin de l'œuvre d'art comme marchandise, plus il est difficile de se rebeller sur les formes, sur les processus de production. Enfin, tout ça est pour le moment très proche de se formater complètement pour optimiser l'aspect marchand des productions artistiques. Donc la rébellion devient de plus en plus compliquée, mais nous sommes présents, nous travaillons.
Alors l'humour traverse ce constat du tout dévolu à la marchandise, mais on vend le Danemark et on vend la cerisée.
Oui, on vend le royaume de Danemark qui est bon. C'est comme on vend Hamlet, on vend la cerisée de Tchekhov. Et nous sommes aussi également à vendre. J'ai essayé de faire une petite note là-dessus.
Alors à travers ce constat très documenté, il y a aussi des inserts. On va parler de la vidéo dans un instant. Mais aussi de textes classiques. Tout à coup, et à plusieurs reprises, vous convoquez Shakespeare. Pourquoi ?
Parce que dans mon descriptif des organisations du travail et du monde du travail en entreprise, je décris une réalité absolument lisse où la violence est totalement sous-jacente. Et à un moment donné, théâtralement, on ne la voyait pas. Et donc, comment est-ce que je peux manifester ? Est-ce qu'on pouvait manifester que, sous couvert de petits rapports de domination, etc., se cache derrière ça une violence proche de la violence guerrière ? Et donc, j'ai été chercher dans les pièces de Shakespeare, les pièces de guerre, enfin les pièces de roi, des équivalents, quelque chose qui permettait de donner notre point de vue sur la violence de ce qui se jouait là, dans le monde du travail. Donc, on a cette bizarre chose qu'en plein milieu d'une scène en complet veston, arrive Shakespeare qui dit la violence de ce qui se passe.
Oui, et en même temps, on peut le comprendre aussi comme une confrontation entre deux genres de langues, une langue formalisée, théâtrale, et puis cette espèce de novlangue managériale.
Voilà, il y a ça aussi. S'il y a Shakespeare dans ce spectacle, c'est aussi à cause de mon désir de Shakespeare, à force d'être fatigué de ce blabla managérial et de ces mots écrans qui masquent la réalité plus qu'ils ne la révèlent. J'ai fatigué de ça, de ce blabla creux en fait. Et donc j'avais envie de Shakespeare beaucoup et de la concentration, à la fois de la concentration du langage shakespearien, à la fois du fait que c'est un langage qui convoque des espaces métaphysiques, des espaces d'une réalité, enfin, qui convoque la nature, et tout ça dans une seule phrase, une telle concentration par rapport à mon blabla managérial. J'ai eu un plaisir fou, et les acteurs aussi, puisque tout le monde allait puiser, à aller chercher dans Shakespeare pour. Voilà.
Et on ouvre aussi les dictionnaires dans votre spectacle.
Oui.
Pourquoi ?
Bah, je crois à l'apprentissage, je crois au dictionnaire, je crois que chaque fois qu'on comprend pas bien un mot, c'est bien d'aller regarder exactement sa définition ou même le parcours de ce mot à travers les âges. Je crois très très fort que le savoir est une arme, j'y crois à fond et donc il y a des dictionnaires.
Il y a un mot qui fait l'objet d'une un long développement, qui est le mot sursauter.
Oui. Comme si on s'était dit que le sursaut, c'était le début, le premier petit signe d'une mobilisation, à la fois physique, quand on sursaute, on saute un petit peu, et mentale. Et donc la phrase dit que l'Europe glisse sur la pente fatale, quand viendra, c'est pas exactement les mots, mais quand viendra ce sursaut de l'opinion. Donc un sursaut de l'opinion, c'est comme un réveil du corps et de l'esprit, un sursaut de l'opinion.
Il faut dire que Jules Puy-Barreau sursaute magnifiquement en cet instant très précis.
Oui, je trouve aussi.
Alors on l'a dit, c'est une pièce de théâtre avec 4 acteurs et des décors en mouvement perpétuel, mais un mouvement qui tourne un peu fou et sans orientation particulière. Et puis s'ajoutent des interludes filmés qui sont doux, rêveurs et charmant et qui donne à penser, on l'a dit, on y insiste sur le mot soubresaut, puis l'on se prend aussi à rêver à ce qui manque et à ce à quoi l'on rêve dans un monde dans lequel le rêve a disparu. Comment avez-vous pensé rythmiquement ces inserts qui semblent nous emmener tout à coup tout à fait ailleurs dans la poésie ?
Oui, on voulait confronter l'espace mental et le fonctionnement du temps contemporain à un espace mental et un fonctionnement du temps que nous avons qualifié des années 60, disons. Et on a beaucoup regardé Godard et on a créé des scènes qui nous faisaient rêver et qui nous faisaient échapper à ces éternelles scènes d'entreprise et qui déploient les rapports humains dans une autre temporalité et dans une autre idéologie.
Oui, on sent ce choc entre une rythmique folle et puis tout à coup peut-être le repli dans quelque chose qu'on pourrait appeler, je sais pas, l'intimité.
Oui, ce sont des scènes intimes. Le décor, c'est un lit. Enfin, elle se passe sur un lit et on s'y parle très doucement, avec beaucoup d'attention à l'autre, avec beaucoup de tendresse, d'humour. Et voilà, et donc c'est un espace rêvé.
Manhã tão boa. mia. De um dia feliz que chegou, o sol no céu surgiu e em cada cor brilhou. Voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela, afinal, manhã de carnaval. Canta o meu coração, a alegria voltou tão feliz, a manhã desse amor.
Un extrait de la musique de votre spectacle, Françoise Bloch. Point de rupture avec un moment très précis que celui-là.
Oui, c'est un moment où on fait défiler une série de traductions de la célèbre phrase issue de Bartleby, de Herman Melville, « I would prefer not to », donc « je préférerais pas », « je préférerais ne pas », « je préférerais autant pas », « je préférerais n'en rien faire » ou « en... » Et si vous insistez, en fait, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est des postures de refus par en dessous. Donc, je préférerais pas. Bon, c'est extrêmement célèbre. Mais bon, comme ça fait partie, comme le sursaut de ces moments de début de début de refus, voilà, on a décliné toutes les traductions possibles de « I would prefer not to ».
Vous pensez, Françoise Bloch, qu'il est difficile aujourd'hui de dire un non franc et direct ?
Oui, je pense que c'est très difficile. Oui, je pense que c'est difficile. Ça devrait l'être moins, mais c'est difficile, les coller. De toute façon, plus on se trouve dans une précarité sociale et économique, plus c'est difficile de dire non à quelque chose qui risque d'empêcher la survie. Mais c'est toujours difficile d'oser dire non, d'oser être en désaccord avec le groupe qui structure nos vies, que ce soit un groupe familial ou que ce soit un groupe de travail. C'est difficile de s'opposer au groupe qui nous fait vivre, enfin... Voilà.
Alors vous montrez aussi à travers des scènes, que ce soit des scènes d'entretien d'embauche ou des désaccords en réunion, qu'en fait il n'y a même plus de place pour le désaccord, que tout semble faire l'objet d'un consensus.
Oui.
Donc en fait toute violence a disparu, et du coup elle est où la violence à partir du moment où extérieurement elle a disparu ?
Ben, elle est intériorisée et elle travaille l'être à l'intérieur jusqu'à explosion ou jusqu'à intégration totale de ce qui fait que je peux dire oui malgré tout. Enfin, c'est... Voilà.
Et donc vous montrez, dans chaque cas, dans chacune de ces scénettes qui sont ajoutées les unes aux autres, qu'au fond, tous ces noms qui ne sont pas dits nous emmènent à un point de rupture.
Oui, il y a une phrase de Shakespeare, et j'ai oublié de quelle pièce elle sort, mais qui est « Tout ce qui n'est pas exprimé reste dans le cœur et peut le faire éclater ». Cette phrase est répétée plusieurs fois.
De la même façon qu'est répétée plusieurs fois « Alors on continue ».
Exactement.
Et s'agissant de la rébellion, que ça demande une énergie de dingue.
De dingue, oui, et ça s'est répété plusieurs fois.
Revenons au théâtre, Françoise Bloch. Est-ce que le théâtre ou les arts vivants, en général, qui doivent échapper par principe à la règle de l'économie, de la rentabilité, est-ce qu'elles s'y soumettent ou est-ce qu'il y a encore cet espace possible pour dire non et susciter l'insoumission ?
Je crois que notre pire ennemi, c'est notre propre autocensure, qui a évidemment des raisons économiques, des causes économiques, c'est-à-dire que c'est à la remise de projets que l'autocensure agit le plus, c'est-à-dire je remets un projet, je cherche de l'argent, je cherche des coproducteurs. Si je fais un truc sur la lenteur, je dis n'importe quoi, je vais étudier la lenteur, je vais trouver personne. Donc je ne vais pas faire le truc sur la lenteur, je vais faire un truc sur la vitesse, par exemple, et des choses comme ça. Enfin, c'est un peu schématique, mais y a une forte autocensure parce que les places sont chères. Enfin, les places sont chères. Il y a beaucoup de propositions artistiques pour peu de moyens financiers. Et donc, comment obtenir ces moyens financiers? Là, dans ce processus-là, il y a énormément d'autocensure.
Ça voudrait dire que, comme dans le monde des affaires et dans les réunions d'études et de projets, les business plans, il y a quelque chose qui pourrait ressembler à ça aussi dans le milieu théâtral, où au fond, sous couvert de liberté, d'art et de parole libre, il y a quand même un consensus qui s'installe, une novlangue théâtrale aussi.
J'espère que non, mais il y en a une, oui, bien sûr. Enfin, toutes les époques ont eu leur novlangue théâtrale, enfin, leur code convenu, etc.
Est-ce que vous pouvez oser être radical, par exemple?
C'est quoi être radical, quoi? C'est ça la question. Je devrais oser être plus radical. C'est tout ce que je peux répondre. Et si je fais ce spectacle-ci, c'est aussi pour moi, pour m'aider à oser être plus radical. C'est sûr que la pression est forte pour ne pas l'être, mais qu'est-ce que la radicalité? Parce qu'il y a aussi le fait qu'on est tout à fait précaire, donc on fait un spectacle et si le public n'adhère pas, parce qu'un acte artistique radical peut tout à fait faire fuir les foules. Et assumer ça est difficile aujourd'hui.
C'est quand même une pièce qui nous invite à dire non, mais elle nous invite aussi à dire non avec beaucoup de sourire, beaucoup de finesse. Les acteurs sont remarquablement inspirés pour nous faire entrer dans une logique douce où la violence existe de manière souterraine. Et puis, il y aurait peut-être cette façon de dire non qui serait la poésie, la rêverie, l'amour et puis tout à coup la sincérité pour notre propre survie.
C'est-à-dire que de rester connecté à ses émotions d'abord et d'essayer de ne pas trop se déconnecter. Maintenant, dire non, enfin, ça a toujours été dans ce spectacle, parce que moi, j'avais un goût pour la sieste. On avait au départ on a commencé par poser une comme alternative, une autre temporalité. Bon, alors c'est pas un non, ça, c'est pas un vrai non, c'est une façon douce de dire et il y a des tas de gens qui sont tentés par ça, hein, couper son portable, enfin, etc., ne plus répondre aux mails, enfin, il y a des tas de micro-tentatives dispersées de lutter pour se réapproprier la temporalité. C'est par ça qu'on a commencé, mais c'est pas un vrai non, c'est ce que vous dites, prendre les choses par la bande, le stop nécessite d'être beaucoup, nécessite d'être organisé, nécessite des solidarités entre tous les gens qui créent des espaces de refus et tout ça doit se travailler.
Dans votre spectacle, il y a cette image, cette représentation du monde des affaires qui est un monde de loups. Et puis alors, à côté de ça, il y a beaucoup d'animaux qui sont évoqués. La tortue, les taupes, le cochon. Un des acteurs se demande « suis-je un cochon ?» Et puis un singe fait son apparition. Votre compagnie s'appelle Zoo, Zoo Théâtre. Y a-t-il un lien entre tout cela? D'où vient la nécessité d'avoir introduit le monde animal à plusieurs reprises?
J'y avais même pas pensé que la compagnie s'appelait Zoo, oui. Mais c'est parce que ça aide à... Bon, on est toujours à la recherche de métaphores quand on fait du théâtre, et donc les taupes, enfin, on adorait les taupes parce qu'elles creusent un sujet, parce qu'elles agissent par en dessous, parce que elles s'organisent sous terre et que brusquement on a un monticule et que quand on a le monticule, on sait qu'il y a des taupes partout
et qu'il est déjà trop tard.
Ça nous amusait beaucoup comme métaphore. Les animaux, ça aide pour les métaphores. La tortue, bon, voilà, ça, on aurait pu prendre l'escargot, mais comme on était dans des histoires d'hibernation, parce qu'il est aussi question de l'hibernation dans le spectacle, ben voilà, donc la tortue, effectivement, je ne sais plus trop ce qu'il y a encore.
Le singe.
Pour nous, c'était se déguiser en singe est une espèce de rêve de se libérer de quelque chose.
Un singe qui danse un air de Tchaïkovski, c'est-à-dire c'est l'animal qui a les aigles du plus beau cygne du monde.
Oui, c'est un singe qui se rêve cygne ou un acteur portant un costume de singe se rêve en cygne, parce que ces costumes, je trouve que notre singe est beau, mais il y a aussi une petite allusion aux acteurs qui, dans des labyrinthes de Barvaux ou autres, doivent mettre un déguisement. Et voilà, oui, l'acteur se rêve singe qui se rêve cygne. Donc, c'est-à-dire, c'est une possibilité de se rêver autrement, de se redéfinir, on va dire ça.
Et dans ce spectacle, c'est l'animal qui prend la révolution en main, puisque c'est lui qui prend ce fameux pavé jeté dans la mare au tout début du spectacle.
Oui, tout à fait. Il découvre ce pavé, il l'a en main, et pour lui, c'est un triomphe, un outil, il le brandit. Il semblerait qu'il ait le courage de le jeter, mais enfin, il ne le jette pas, il le repose, en le faisant des battements d'ailes autour de lui, voilà.
It's au revoir, my once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few, traveling light like we used to do. Good night, my fallen star, I guess you're right. Always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone, I've met a few. Traveling light like we used to do. Traveling light like we used to do. I'm traveling light.
Vous écoutez Musique 3, la couleur des idées, avec la metteuse en scène Françoise Bloch ce matin. Et puis ce choix d'une musique qui n'apparaît pas dans votre spectacle, avec qui est signé Leonard Cohen, Traveling Light.
Oui, j'adore Leonard Cohen. J'aime sa profondeur et sa légèreté. Et il touche en moi un espace sombre, tout en me rappelant de rester léger, Traveling Light.
Voilà, la sombre légèreté, c'est aussi la tonalité de votre spectacle Point de rupture, que l'on peut découvrir actuellement sur la scène du Théâtre National. Françoise Bloch, le public revient petit à petit, fréquente à nouveau timidement les théâtres. On sait le secteur culturel et le secteur des arts vivants particulièrement touchés. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je vous demandais quel est l'état du monde tout à l'heure, et en particulier, comment ça se passe du côté du théâtre?
Bah, le secteur a été très, très, très fragilisé. Nous avons vécu une période en fin de confinement, au début de déconfinement, une période hallucinante où nous étions le dernier, nous avons pris conscience que nous étions le dernier secteur derrière tout le monde, alors que l'impact économique sur les plus fragiles et les travailleurs à courte durée que nous sommes, etc., était gigantesque et les solutions n'arrivaient pas. On ne savait pas quand. Bon, après ça, il y a eu les plannings qu'on ne pouvait pas. On ne savait pas quand on allait reprendre. Enfin, on était informés extrêmement tardivement. Et donc, tout ça nous a fait prendre conscience à quel point nous étions fragile et à quel point, avec le côté positif évidemment, c'est que je trouve qu'on se comporte beaucoup plus aujourd'hui entre artistes, entre compagnies, entre institutions. On a des comportements beaucoup plus solidaires qu'avant, parce qu'on passe dans des comportements qui sont ceux des minorités, c'est-à-dire dans la nécessité de se connecter, d'être solidaire. Maintenant, le public revient, c'est bien. Chez nous, depuis la première, le public est là. La jauge est limitée par les contraintes Covid. Mais les gens sont là, malgré tout, malgré le fait qu'il fallait faire la queue, qu'il y a toute une série d'opérations avant de pouvoir pénétrer dans la salle de spectacle. Mais les gens sont là. Ça nous a rappelé quand même qu'il a été question d'annuler des spectacles parce que la billetterie n'était pas suffisante. Il a été question de... Des choses ont été brassées pendant ce moment. Il a été question, par exemple, de jouer deux fois pour le prix d'un, pour compenser la jauge, pour compenser les recettes billetterie. Donc, on a quand même pris conscience qu'économiquement, le secteur est très, très fragile et que nous ne sommes pas très jugés, en tout cas ici, en Fédération Wallonie-Bruxelles, comme très importants.
Oui, vous le dites très bien, Françoise Bloch, c'est un secteur qui est déjà précarisé. Et puis là, on a l'impression que le secteur est dans une lente agonie. Et malgré tout, vous dites que des solidarités se sont mises en place. Alors peut-être que les jours meilleurs sont à venir.
Oui, je l'espère. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup plus de communication et d'entraide qu'avant la crise Covid. J'ai l'impression que quelque chose vient de ce côté-là contrer la concurrence qui était en augmentation terrible, puisqu'il y a trop peu d'argent pour trop de monde, la concurrence s'exacerbe. Eh bien, j'ai l'impression que la crise Covid renverse un peu cette donnée pour créer de la solidarité, parce que là, on se sent vraiment tous dans le même bain, quoi.
Voilà, pour reprendre les mots de votre spectacle, la rébellion, mais peut-être aussi la solidarité demande une énergie de dingue.
De dingue.
Merci beaucoup Françoise Bloch d'avoir été avec nous ce matin. Puis vous avez choisi aussi d'accompagner les auditeurs de Musique 3 avec la musique de Franz Schubert. Pourquoi ? C'est aussi la sombre légèreté de Schubert.
Mais oui, j'y tiens beaucoup. Où la nostalgie met avec la plus grande légèreté. Et donc là, ici, c'est piano seul que j'aime beaucoup. Et il y a aussi un élan, une dynamique, tout en étant tourné vers quelque chose du passé qui rend triste, mais qui permet quand même d'avancer. Voilà. Thank you.
Un impromptu de Franz Schubert, dernier choix musical de notre invitée, la metteuse en scène Françoise Bloch, dont la récente création Point de rupture est à découvrir sur les scènes du Théâtre National jusqu'au 10 octobre et puis en tournée à Montpellier, à Mons, à Charleroi et à Vitry-sur-Seine. Merci à vous d'être fidèles au rendez-vous de La Couleur des Idées. Katia Madol, Simon Brinfo, Pascal Seize, nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine. Nous aurons le plaisir d'accueillir Eva Bester, qui vient de publier aux éditions Autrement un petit essai consacré à un peintre de chez nous, à Léonce Pilliard. Très très bon week-end, à samedi prochain à 11h.